France Inter.
Bonjour à tous, ce sont des soldats du feu qui se consument de l'intérieur, les sapeurs-pompiers confrontés au surmenage, au harcèlement moral et même au suicide. Bonjour Anne-Laure Barral.
Bonjour Benoît.
Alors vous avez enquêté sur ce grand malaise chez les pompiers et qui pousse même certains d'entre eux à porter plainte contre leur hiérarchie.
Secret d'info, Benoît Colombat sur France Inter.
J'ai 36 ans de métier et je me trouve toujours dans une ambulance. Pour moi, c'est pas trop normal. Faites des embauches, bon Dieu. On attend que ça.
Alors qu'ils ne devaient pas entrer en presqu'île, les pompiers ont bravé cette interdiction. Une banderole a été déployée depuis le monoprix de la place des Cordeliers avec un message clair.
Depuis plus de 90 jours aujourd'hui, on est en grève et nos élus nous apportent toujours pas de réponse concrète.
Voilà, extrait d'un reportage diffusé le 8 décembre dernier par BFM sur la grève des pompiers dans la métropole de Lyon pour obtenir plus de postes. Une grève qui a duré près de 4 mois, qui révèle un malaise plus profond qui va bien au-delà de l'agglomération lyonnaise et qui se traduit notamment par une multiplication des plaintes pour harcèlement moral. On va y revenir dans un instant, mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là, Anne-Laure Barral, il faut d'abord expliquer quel est le statut de ces pompiers.
Oui, certains ont le statut militaire, comme les pompiers de Paris ou ceux de Marseille. Ailleurs, ils sont plutôt fonctionnaires territoriaux. Mais la grande majorité des pompiers a un tout autre statut, comme l'explique le sociologue Romain Pudal, directeur de recherche au CNRS et auteur du livre « Les pompiers, des héros fatigués ».
Le maillage qu'on assure sur tout le territoire, il tient surtout sur une main-d'œuvre dont on ne parle pas beaucoup, qui sont les fameux pompiers volontaires. Pas bénévoles, volontaires, c'est-à-dire rémunérés fort peu, mais rémunérés pour leur activité de pompier. Et ça, c'est 80% des effectifs.
Et selon les dernières statistiques de la sécurité civile, il y a aujourd'hui plus de 200 000 pompiers volontaires en France pour 43 000 professionnels.
Et que ce soit chez les professionnels comme chez les volontaires, ce sont donc leurs conditions de travail qui posent aujourd'hui question.
Oui, des conditions de plus en plus difficiles avec des délais d'intervention plus longs, comme en témoigne Manuel Coulet, secrétaire national du syndicat Sud au sein de la profession.
Hier, on arrivait en 10 minutes, en milieu rural je parle. Maintenant, on arrive en un quart d'heure, en 17 minutes, en 18, en 20. Les conséquences que ça a, c'est qu'on est directement, nous, en lien avec le public, avec les victimes qu'on va secourir, qu'on va prendre en charge. Et l'accueil est quelquefois un peu tendu. Pas aussi tendu, mais on n'en est pas loin que celui qu'on peut connaître en cité, notamment en zone sensible. Mais du coup, on se retrouve avec des tensions, des frictions, des insultes, voire des coups, y compris en milieu rural, sur des interventions qui pourraient pas être banales et qu'on faisait jusqu'à maintenant de manière tout à fait tranquille.
Et je précise qu'il existe un observatoire des agressions des pompiers qui compte près de 1000 agressions par an. Aujourd'hui, la hiérarchie porte plainte aux côtés du pompier victime d'agressions, voire de menaces. Elle lui offre ce qu'on appelle aussi la protection fonctionnelle pour financer ses frais de justice.
Sauf que cette protection fonctionnelle, elle n'est pas systématique.
C'est ça, et on le comprend à travers l'histoire du sous-officier Brahim Ouared Bida, référent pour la lutte contre la discrimination et la mixité dans le Pas-de-Calais. Il a dénoncé au procureur de la République l'an dernier des abus des véhicules de service pour des usages personnels de la part de certains cadres pompiers de son département. Une enquête a même été ouverte par le parquet et depuis, il a reçu de nombreuses lettres de menaces.
J'ai reçu des insultes à caractère raciste et xénophobe. Bougnoul, bico, va monter tes chameaux, melon, t'as pas la parole, tu vas crever. Méfie-toi, on t'a à l'œil, on sait où tu crèches. Alors, il y en a une que je reçois sur mon pare-brise à mon domicile, avec l'entête du SDIS du Pas-de-Calais.
Le SDIS, on le rappelle, c'est le service départemental de secours et d'incendie. C'est l'établissement public qui gère l'ensemble des pompiers du département. Et dans le cas qu'on vient d'entendre, ce pompier semble menacé par certains de ses propres collègues.
C'est ça. Et s'il a obtenu le soutien de sa hiérarchie par rapport aux menaces dont il fait l'objet, en revanche, il doit se débrouiller à ses frais pour l'enquête sur les abus de biens sociaux présumés au sein du SDIS.
Concernant les lettres anonymes que j'ai reçu, j'ai bénéficié de la protection fonctionnelle. Concernant le dépôt de plainte que j'ai fait pour les dérives, je n'ai pas de protection fonctionnelle. J'ai donc pris une avocate et je vais devoir le prendre en charge à mes frais. j'ai l'impression que pour les dérives que j'ai dénoncées, je ne suis pas franchement soutenu.
Et qu'est-ce qu'on répond justement du côté de sa hiérarchie ?
Eh bien, qu'en fonction de l'enquête interne sur ses abus, elle prendrait les sanctions qui s'imposent. Pour ce qui est de la protection fonctionnelle, selon certaines sources, elle n'est accordée qu'aux agents attaqués et pas à ceux qui dénoncent des pratiques présumées illégales au sein de leur SDIS.
Mais donc, pas facile sans cette protection de dénoncer d'éventuelles dérives.
Bien sûr, et pour les pompiers volontaires, la situation semble encore plus difficile.
Et pourquoi ?
Eh bien parce que la direction ou leur chef de caserne peuvent mettre fin à leur activité du jour au lendemain. Ils n'ont pas de CDI, mais un contrat d'engagement de 5 ans renouvelable. Le volontaire est un vacataire, même s'il vient souvent par vocation pour aider les autres, comme l'explique le sociologue Romain Pudal, ancien pompier volontaire en région parisienne.
On entre par vocation, on reste pour les vacations. On est attiré par le métier en même temps, comme c'est rémunéré, certes pas beaucoup, mais un petit peu quand même, et que ça touche une population qui est relativement précaire professionnellement. Progressivement, les gens intègrent le fait qu'ils touchent leur argent, les vacations, comme un élément de leur vie, pour payer les traites d'un pavillon, une bagnole. Et à partir de là, vous ne pouvez plus vous passer avec évidence de votre activité pompier, parce que ça veut aussi dire perdre la vacation.
Et ça représente combien financièrement cette vacation ?
Eh bien, les rémunérations des pompiers volontaires peuvent être très variables d'un endroit à l'autre. 20 centimes de l'heure si on reste à la caserne ou chez soi en astreinte. Une dizaine d'euros si vous partez en intervention. Cela peut représenter quand même quelques centaines d'euros par mois. Et certains chefs de caserne savent bien que c'est un revenu qui compte dans la vie des volontaires, comme l'explique encore le sociologue Romain Pudal.
Vous avez aussi des volontaires qui vont prendre plus de garde. Et vous avez aussi des gens qui vous disent, chez les officiers, oui, on sait que les petits jeunes sont des précaires et on sait qu'ils ne nous diront pas non parce qu'ils n'ont pas de thunes. Donc on les appelle et on leur dit, voilà, dimanche, j'ai personne, ou j'ai tel pro qui est malade, ou je sais pas quoi. Tu veux te faire 100 balles, tu viens à la caserne. Ben, ils viennent. Est-ce qu'il est dans les clous du point de vue de la sécurité ? C'est-à-dire, combien d'heures de garde le pompier volontaire en question s'est enquillé ? Moi, j'en connais un, il a fait 96 heures de garde d'affilée, etc.
Mais c'est légal ?
Mais légalement, on est complètement hors des clous.
Et le système français avec 80% de pompiers volontaires n'est pas non plus toujours dans les clous de la directive européenne sur le temps de travail. Du côté de la sécurité civile, on explique que des réflexions sont en cours pour consolider juridiquement le volontariat.
Et face à tout ça, Anne-Laure, de plus en plus de pompiers décident donc de saisir la justice.
Oui, et c'est le cas par exemple d'Alain Pralet, pompier professionnel, lui, pendant près de 30 ans, aujourd'hui à la retraite. Il a décidé de porter plainte pour harcèlement moral contre certains de ses cadres et anciens cadres, mais aussi contre le service départemental de secours et d'incendie de la Savoie.
À partir de 2018, suite à un changement de direction, j'ai été littéralement mis au placard. Moi, je suis mis dans un groupement où je suis le seul représentant, je n'ai pas de service, je suis tout seul. Je suis en plus mis dans réellement un placard, puisque c'est un local qui servait à accueillir des archives précédemment.
Ouais, c'est effectivement un peu humiliant comme situation. Et qu'est-ce qu'il a fait pour en arriver là ?
Eh bien, il y a eu plusieurs événements, selon lui, qui ont déclenché sa mise à l'écart. Et notamment une réunion officielle en 2017 où Alain Pralet explique que son service n'a pas pu remplir tous ses objectifs de contrôle de la sécurité incendie, des hôtels, des mairies, des gymnases qu'il doit normalement visiter chaque année.
On en avait visité environ 80%. Tout le monde le savait, à tel point que mon directeur précédent, lorsque le préfet avait demandé pourquoi on ne les atteignait pas, et le colonel avait dit au préfet, si l'État me finance un ou deux postes supplémentaires, le calcul était à faire, je vous garantis qu'on atteindra 100% des objectifs. Et le préfet avait répondu qu'il n'avait pas de budget prévu pour financer des postes comme ça, que c'était à voir avec le conseil départemental.
Oui, donc si ce pompier n'a pas rempli ses objectifs de contrôle, c'est visiblement parce qu'il manque de moyens. Et on l'entend là-dessus, le préfet renvoie sur le conseil départemental.
Oui, parce qu'il faut savoir que les services départementaux de secours et d'incendie sont sous une double tutelle. L'État, avec la préfecture qui d'un côté fixe les objectifs opérationnels à remplir, mais c'est le conseil départemental des élus qui lui donne une grosse partie de ses moyens financiers, qui dirige son conseil d'administration, une double direction parfois difficile à concilier.
Et ce pompier savoyard alors qui s'est retrouvé placardisé, qu'est-ce qu'il va lui arriver finalement ?
Eh bien il sera convoqué en conseil de discipline en 2024 pour plusieurs raisons, comme le fait d'avoir une affiche humoristique dans son bureau, mais surtout pour ne pas avoir rempli ses objectifs. Face au risque d'être rétrogradé, Alain Pralet a préféré demander sa pré-retraite l'an dernier. Comme il ne dépend plus de ses anciens cadres, bien aujourd'hui il a décidé de porter plainte au pénal parce qu'il considère que sa situation est loin d'être isolée.
J'ai des collègues aux SDIS de la Savoie, et je pense dans d'autres SDIS aussi, qui souffrent, qui ont peur. Ils ont peur d'aller au travail aujourd'hui. Je ne veux pas que ça se reproduise. Et puis, je voudrais aussi que la direction de la sécurité civile prenne conscience, qu'ils mettent à la tête des SDIS des gens qui sont toxiques. Et lorsque ces gens posent un problème dans un SDIS, dans un département quelconque en France, on les met dans un autre département. Et ils peuvent se refaire une virginité et recommencer ailleurs.
Et du côté de la sécurité civile, on répond quoi ?
On dément que les directeurs soient déplacés pour éviter les problèmes en précisant que chaque service départemental est une structure autonome.
Bon, cela dit, ce grand ras-le-bol, on le disait en début d'émission, on le retrouve dans de nombreux départements.
Oui, comme en Haute-Saône, où plusieurs pompiers ont porté plainte pour harcèlement moral dès 2023. L'enquête est toujours en cours au parquet de Besançon, avec là encore, à l'origine de ce bras de fer, des questions de temps de travail, mais surtout de moyens, comme l'explique cet ancien pompier du département. Il a préféré ne pas divulguer son identité, nous avons donc modifié sa voix.
Il y avait des agents qui ont fait remonter, voire même constater des pneus de plus de 20 ans sur une grande échelle.
Quand le pompier arrive avec le camion qui a la grande échelle.
Voilà, exactement. Il y avait le problème des équipements de protection individuelle, donc ils se sont retrouvés avec des surpantalons donc pour aller au feu qui étaient trop courts, qui n'étaient pas assez amples. Mais c'est vrai qu'au niveau matériel, bah maintenant, tout coûte cher, mais tout vieillit aussi. Donc, c'est du matériel qui a un coût, donc c'est toujours pareil. On en revient toujours, toi, à la problématique, c'est l'argent de toute façon.
Et ces problèmes matériels, ils ont parfois des conséquences très concrètes.
Oui, écoutez ce qui s'est passé début 2023 dans la commune de Vélexon, toujours en Haute-Saône. C'est le maire Dylan Demarche qui raconte.
Le 17 février 2023, une habitante de la commune a subi donc un arrêt cardio-respiratoire. C'était la doyenne du village, c'était l'arrière-grand-mère d'une pompier volontaire qui habite sur la commune. Les secours ont été prévenus dès 7h36 le matin. Or, le système de déclenchement des secours n'a pas fonctionné correctement ce jour-là. Les pompiers communaux qui auraient dû être déclenchés le plus rapidement possible ne l'ont été qu'à 8h11. Un dysfonctionnement qui s'explique par la vieillesse et par le mauvais fonctionnement global des installations de déclenchement des secours, quelque chose qui apparemment était connu sur le département.
Ah bon, mais c'est vrai ça que ce dysfonctionnement de déclenchement des secours était connu au sein du département ?
Eh bien, nous avons pu consulter des rapports d'inspection du service d'incendie et de secours qui, en 2009 et en 2015, s'inquiétaient effectivement de la fiabilité de ce logiciel d'alerte propre aux SDIS de la Haute-Saône et préconisaient même de prévoir son évolution. Pourquoi y a-t-il eu encore un bug en 2023 ? C'est quelque chose qui interroge Dylan Demarche, le maire de Vélexon.
Peut-être que si les pompiers seraient arrivés plus tôt, ils auraient pu faire quelque chose. Peut-être que cette dame aurait pu survivre. On ne le saura jamais, c'est comme ça. Moi, ce qui m'alerte, c'est que depuis plusieurs années, le problème avait été pointé du doigt et qu'on a eu un délai très important de réactivité pour mettre en place une nouvelle solution. Et donc, il a fallu attendre un nouveau président de conseil d'administration du SDIS et un nouveau directeur départemental pour que les choses évoluent.
Et qu'est-ce qui a changé alors ?
Eh ben, écoutez là-dessus, le directeur du SDIS de la Haute-Saône, hein, Stéphane Leu.
Le déclenchement de nos pompiers communaux par leur téléphone portable présentait un certain nombre de risques de défaillance. Ce système-là, il a été décidé qu'il serait remplacé. Il a été remplacé depuis par un système plus classique de déclenchement par une infrastructure radio propre aux SDIS, c'est-à-dire de déclenchement par nos propres émetteurs et nos propres relais de transmission.
Des problèmes de moyens qui créent du coup des tensions entre les pompiers et leur hiérarchie, on l'a bien compris. Et des exemples, il y en a beaucoup.
Oui, dans les Vosges, la Meuse, les Alpes-Maritimes, le Rhône, mais aussi en Côte d'Or ou à Dijon, les pompiers ont manifesté en caleçon l'an dernier parce que leur direction leur avait interdit de manifester en tenue pour respecter leur devise qui leur impose la discrétion et leur devoir de réserve de fonctionnaires.
Un devoir de discrétion et du coup, certains syndicats de pompiers considèrent qu'ils seraient particulièrement visés par leur direction.
Oui, alors certains représentants syndicaux s'estiment lésés dans leur carrière parce qu'ils ont un mandat pour défendre leurs collègues. Certains ont même porté plainte pour, je cite, « discrimination syndicale ». En 2022, la CGT a même transmis un courrier sur le sujet à Gérald Darmanin, alors ministre de l'Intérieur, comme l'explique Sébastien Delavoux, délégué CGT des SDIS.
On avait cité une quinzaine de départements avec des cas différents, avec des faits extrêmement graves, des faits de discrimination. Toutes les affaires ne se sont pas résolues. Des fois, ça s'est résolu parce qu'il y a le directeur départemental qui est parti, ou parce que le chef de service a changé, ou parce que les gens ils ont réussi en fait, à être réparés en droit. Tous les cas qu'on avait remontés étaient parfaitement étayés.
Et je précise que les représentants d'autres syndicats ont aussi engagé des procédures similaires.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colomba.
Alors on a vu que la souffrance au travail était de plus en plus visible chez les pompiers avec des plaintes, notamment pour harcèlement moral. Et ces plaintes, Anne-Laure Barral, elles concernent aussi les pompiers volontaires qui, on le rappelle, représentent 80% des effectifs.
Oui, malgré la précarité de leur statut, les premiers pompiers volontaires à l'avoir fait, c'était en 2008, en Seine-Maritime. Au bout de 17 ans de combat judiciaire, leur ancien chef de caserne a finalement été relaxé en appel.
Et ces volontaires, ils ont créé une association de pompiers contre le harcèlement.
Oui, Harcèlement 18. Dès 2012, ils mettent en place une ligne téléphonique dédiée avec un psychologue et une aide pour leur dossier disciplinaire ou judiciaire. Mais face à l'afflux d'appels au secours, la petite association renonce à sa permanence téléphonique, comme l'explique Éric Serre, l'un de ses administrateurs aujourd'hui.
Fin 2019, la ligne téléphonique est abandonnée. Ça devient trop difficile pour la personne qui supporte seule cette ligne. C'est chronophage et en même temps, c'est aussi douloureux face aux situations qui sont alarmantes. Je veux dire, il en a récupéré un de justesse en fait, qui était dans le garage en train de se pendre.
Et depuis la fermeture de cette ligne téléphonique, l'association recueille désormais les témoignages par mail.
Mais il n'existe pas de cellule dédiée spécifiquement à ces signalements chez les pompiers ?
Si, depuis 2014, la loi précise la mise en place de dispositifs de lutte contre les risques psychosociaux, mais plusieurs témoins nous ont expliqué ne pas avoir confiance dans ces cellules internes de signalement. Alors certains services départementaux font des efforts en faisant appel à des cabinets externes, mais ce qui dissuade les victimes, c'est que l'enquête remontera bien à un moment ou à un autre à l'état-major du SDIS pour comprendre la situation dans la caserne et prendre des mesures si nécessaire.
Et au sein de ces cellules de signalement, il y a parfois des dysfonctionnements.
En effet, Pascal suivait les questions de santé au travail au sein de son ancien SDIS. Alors qu'il entend un officier insulter ses agents, il souhaite saisir la cellule de signalement, mais son directeur va s'y opposer. Pascal a préféré ne pas divulguer son identité, nous avons donc modifié sa voix.
J'avais mis en place le dispositif de cellule de signalement prévu par les textes réglementaires et la loi. Donc on a créé cette cellule de signalement avec les membres qui la composent, toute la procédure pour la saisir, etc., de manière anonyme, par un formulaire, etc., en ligne. Et dans le cas de cette insulte par l'officier supérieur, moi j'avais dit au directeur, il faut déclencher, lui qu'on est au courant des faits, il faut déclencher la cellule de signalement, qui est une enquête interne, qu'on connaisse aussi les raisons qui ont amené à cette situation, qu'on protège les agents, etc. Et le directeur a complètement refusé de mettre sur pied cette cellule interne de signalement.
Bon, mais et ces alertes, pourquoi elles ont parfois tant de mal à remonter ?
Eh bien parce que le problème est alors signalé aux élus locaux, comme le président du conseil départemental. C'est lui qui nomme le directeur du SDIS et qui tient les cordons de la bourse aussi. Christelle Mazat est avocate au barreau de Paris. Elle défend plusieurs pompiers qui poursuivent aujourd'hui leur hiérarchie.
Il y a une vraie dimension systémique sur la façon dont les SDIS sont gouvernés. La quasi-totalité des personnes qui viennent me voir sont dans une dimension quasi lanceur d'alerte. Donc on vient me voir parce qu'il y a des dysfonctionnements profonds sur les règles de marché public, parce qu'il y a des soupçons de détournement de fonds. Il y a toujours un fondement juridique à l'alerte et derrière un système de représailles. Et pourquoi les mécanismes internes ne fonctionnent pas ? Parce que dans la quasi-totalité des cas, les lignes hiérarchiques sont mises en cause. Et ça remonte très haut.
Et face à d'éventuelles représailles, on a vu que de par leur statut, les pompiers volontaires étaient les plus exposés et ils ont décidé de s'organiser.
Oui, depuis quelques mois, une trentaine de pompiers et ex-pompiers volontaires ont créé le syndicat national des sapeurs-pompiers volontaires, dont Bruno Ménard est le secrétaire général. Il accompagne juridiquement aujourd'hui près d'une centaine d'agents dans 35 départements.
Ce qu'on a remarqué avec le peu d'existence que l'on a, ce ne sont pas les SDIS qui sont responsables de situations, mais ce sont des personnes qui instrumentalisent les SDIS pour leur propre intérêt. Parce qu'en fin de compte, quand on réfléchit, les SDIS, c'est un ensemble de personnes, c'est une collectivité avec des agents, des sapeurs-pompiers professionnels, volontaires, des directeurs, directeurs adjoints, jusqu'aux sapeurs. La plupart du temps, ce sont des personnes qui utilisent les moyens de la fonction publique pour arriver à leur propre fin. Donc aujourd'hui, nous, on a décidé de ne plus attaquer les SDIS, mais d'attaquer les directeurs, directeurs agents ou toute personne à titre personnel qui ne pourront pas se cacher derrière une institution.
Oui, donc au-delà de l'institution, ces plaintes de pompiers, elles visent des personnes précises. Et ce qui est nouveau, Anne-Laure Barral, pour ce tout jeune syndicat de pompiers volontaires, ce sont les signalements pour harcèlement sexuel.
Eh bien oui, parce que la profession se féminise, les femmes sont passées de 14 à 20% ces 5 dernières années, même si elles peuvent être pompiers depuis 1976. Sandrine a débuté chez les pompiers il y a plus de 20 ans et elle n'a pas gardé que des bons souvenirs de son passage dans certaines casernes.
Vous savez, quand vous prenez une garde à Noël et que vous avez un collègue dans une caserne pro qui tout d'un coup apparaît devant vous nu pour faire tourner en fait son appareil intime, là vous vous dites la nuit va être très longue. Lorsque vous voyez une poupée gonflable sur un baby-foot avec un bâton de glace introduit sur sa partie intime, là vous appelez votre conjoint, vous dites « je suis la seule femme, j'ai peur ».
Ouais, et du coup, certaines femmes vont même être obligées de quitter le métier.
Oui, c'est le cas d'Angela, jeune sapeur-pompier volontaire dans le Pas-de-Calais. Alors qu'elle a 22 ans et qu'elle se destine à être pompier professionnelle, elle va subir pendant plusieurs mois des remarques sexistes, sexuelles et même un attouchement de la part de ses collègues.
Il y a un soir où j'étais en intervention, donc dans une ambulance. Je me retrouve seule avec le chef d'intervention. Cette personne commence à tapoter sur mon téléphone pour m'embêter. Et il finit par tapoter ma jambe. Je lui demande d'arrêter et il finit par me caresser l'oreille. Et donc on dort à la caserne. Nous, les féminines, on a une chambre particulière. Alors déjà, à plusieurs reprises, il y a donc notamment les personnes qui me harcelaient, qui sont rentrées en ouvrant la porte, sans frapper, sans rien, dans les chambres. C'était des propositions de « je vais regarder Netflix, viens avec moi, t'inquiète, je vais te réchauffer. Ah, puis t'es tout seul ce soir, on va pouvoir partager la chambre. T'inquiète pas, je connais les chambres des filles, on va pouvoir aller dans les douches. »
Et cette ambiance, elle va finir par avoir des conséquences très lourdes sur son travail.
Oui, alors qu'elle est de garde une nuit et qu'elle dort à la caserne, Angela prend peur et ne veut plus partir en intervention avec certains de ses collègues. Elle ne répond plus aux alertes de son beeper. Du coup, le SDIS la suspend. Elle finit par quitter le département et les pompiers.
Et est-ce qu'elle saisit la justice ?
Eh bien, un de ses supérieurs, un adjoint de la caserne, va même l'emmener au commissariat de police pour déposer plainte. Mais là aussi, ça n'a pas été facile pour Angela.
On m'accueille dans un bureau. On me dit « Ok, c'est pourquoi ?» Je dis « Je suis harcelée au sein de la caserne. » « La caserne de quoi ?»« La caserne des pompiers. » « Ah mais non, mais vous vous rendez compte de l'image que vous allez donner ?» On va juste faire une main courante. On en a discuté avec l'adjoint et qui, lui, ne trouvait pas ça normal non plus parce que forcément, il avait un regard extérieur. Et il a fait jouer les relations pour pouvoir contacter directement le commissaire qui a pris en compte directement une plainte.
Finalement, l'enquête classera l'affaire faute d'éléments matériels probants. Pourtant, des témoignages d'autres femmes pompiers confirment l'ambiance décrite par Angela. Écoutez un extrait du rapport de police que nous avons fait lire.
J'ai l'honneur de vous rendre compte des faits suivants.
Le personnel masculin se permet d'entrer la nuit dans la chambre des filles. Le personnel féminin fait l'objet de remarques salaces et déplacées, sans respect ni de la condition ni de l'âge des personnes, et ce, de façon récurrente.
Bon, et les pompiers mis en cause, qu'est-ce qu'ils répondent ?
Selon leur déposition, ils estiment que les propos qui l'ont choqué ne lui étaient pas destinés. Ils s'excusent si cela a été mal interprété, mais ils affirment avoir été plutôt aidants avec cette jeune pompier inexpérimentée. Malgré le classement sans suite, Angela veut rouvrir son dossier parce qu'elle estime que ce n'était pas à elle de quitter le métier.
J'aurais peut-être pu avoir plus de soutien. J'arrivais, j'avais la peur de justement perdre ma place. Les pompiers, c'était tout pour moi. J'avais repris mes études exprès pour passer le concours. J'étais là-bas quasiment tous les jours. Enfin, ça rythmait ma vie complète. Et si je perdais ma place, pour moi, je me retrouvais sans rien.
Et est-ce qu'en interne, il y a eu des sanctions ou ce qu'on appelle un recadrage ?
Alors, la direction des pompiers du Pas-de-Calais nous a répondu que des enquêtes administratives étaient en cours et qu'en fonction du résultat, quel que soit le grade des pompiers concernés, des sanctions seraient prises.
Et cette histoire, Anne-Laure, elle n'est pas isolée.
En effet, malgré des formations aux violences sexistes et sexuelles dans de nombreuses casernes, aujourd'hui, il y a encore beaucoup de chemin à faire, estime Sébastien Delavoux, représentant CGT des SDIS.
Quand, par exemple, il y a une jeune femme mineure et que toute la garde l'appelle « mon petit abricot », a priori, personne n'accepterait que sa fille ou sa femme se fasse traiter en fait, de la même manière dans un autre milieu professionnel. Il n'y a pas eu le MeToo des sapeurs-pompiers, parce que des histoires pas glorieuses, il y en a quand même un certain nombre. S'il faut en passer par là, qu'on subira la foudre, mais ce serait bien que les pompiers ils puissent s'interroger sur ce qui se passe dans leur établissement et sur ce en quoi ils contribuent à avoir des établissements sécurisants ou pas, avant qu'on passe à la moulinette du MeToo, parce que c'est jamais un moment agréable.
On va s'arrêter là pour le moment, mais surtout, restez avec nous. Dans un instant, on va voir comment, en arrière-plan de ce climat très lourd, existe un tabou, celui du suicide ou des tentatives de suicide des pompiers.
I almost felt the feeling that I wanted to. I wanted to.
Bug, extrait du dernier album des Irlandais de Fountains D.C., Romance. Et je vous recommande le clip de ce titre réalisé par la cinéaste britannique Andrea Arnold qui signe le magnifique long-métrage Bird.
France Inter, Secret d'info, Benoît Colombat.
Et retour à notre enquête sur le grand ras-le-bol des pompiers avec des violences, racisme, harcèlement moral ou sexuel au sein même de la profession et des pompiers qui se retournent de plus en plus contre leur direction, une ambiance parfois très lourde et qui du coup pèse forcément sur la santé mentale des uns et des autres, Anne-Laure Barral.
Oui, il y a eu 273 suicides et tentatives de suicide chez les pompiers ces 6 dernières années, selon des chiffres dévoilés récemment par l'inspection générale de la sécurité civile. Mais elle estime que ces suicides ont tendance à décroître et qu'il y en a moins que chez les policiers et les gendarmes. Sébastien Delavoux, représentant CGT des SDIS, conteste lui cette analyse rassurante.
Ils ne peuvent compiler que les statistiques qui leur remontent de la part des services d'incendie et de secours et qu'on a l'impression que là, ils n'ont pas très envie de remonter des statistiques qui leur soient défavorables. Quand il y a des tentatives de suicide, ça peut arriver que les employeurs ne sont pas toujours au courant. Nous-mêmes, quand ça se passe chez les professionnels, il y a comme une forme de tabou, on n'est pas forcément au courant. Et quand ça se passe chez les volontaires, c'est vraiment le cadet de leurs soucis, alors que ça dit quelque chose de notre milieu professionnel.
Oui, donc selon ce syndicaliste, il y aurait une sous-estimation du phénomène, mais est-ce que ces suicides, on peut les relier directement aux conditions de travail des pompiers ?
Écoutez là-dessus la réponse de Camille Châtelet. Dans le cadre de sa formation à l'Université de Montpellier en santé-prévention, elle a réalisé en 2022 un mémoire sur les risques psychosociaux chez les soldats du feu.
Si la personne s'est suicidée pour des raisons personnelles et pas en rapport avec les pompiers, ils ne vont pas le comptabiliser. Il y en a qui ne l'ont pas fait à la caserne, mais qui l'ont fait en tenue. C'était sur des moments où ils étaient de garde, ce genre de choses. Et puis, des fois, dans les lettres, c'est dit aussi les raisons.
Oui, donc d'après elle, certains courriers posthumes de pompiers suicidés feraient clairement le lien avec leurs conditions de travail, un environnement que cette spécialiste des risques psychosociaux a justement analysé dans ce questionnaire que de nombreux pompiers lui ont adressé.
Oui, des questionnaires dans lesquels ils expliquent que leurs conditions de travail se sont clairement tendues ces 20 dernières années. Les effectifs des pompiers sont restés stables. La sécurité civile se vante même d'avoir aujourd'hui plus de 200 000 pompiers volontaires, un nombre jamais atteint depuis 17 ans. Mais dans le même temps, le nombre de casernes a baissé de 30%. Les pompiers ont donc plus de temps de trajet, on l'entendait au début de l'émission. Ils ont surtout plus d'interventions à faire parce que les Français sont plus nombreux, plus âgés. On est passé de 3,5 millions à près de 5 millions d'interventions par an.
Plus d'interventions et du coup plus de stress, un stress qui pousse parfois à bout.
Oui, c'est ce qui est arrivé à Sandrine alors qu'elle était cadre au sein de l'état-major d'un service départemental en 2022, alors qu'elle est épuisée par la gestion de la crise Covid et par des tensions avec des membres de son équipe. Elle se sent lâchée par ses supérieurs lors d'une réunion. Elle se dit alors qu'il ne lui reste plus qu'à sauter par la fenêtre. Et la suite, c'est elle qui la raconte.
Je sors de cette pièce après en avoir entendu de trop et d'avoir tenu comme j'ai pu tenir pendant plus de 3 ans. Je me suis dit que je n'avais plus de raison d'être là, que j'étais une honte pour mes enfants. Voilà, c'était plus la peine de vivre et que je savais par où je pouvais sauter. Il fallait que ça se termine, cette souffrance. Et je me suis préparée à ce geste-là et j'ai eu la vie sauve par une collègue qui a agi immédiatement pour me retenir.
Un an après ce geste, Sandrine a porté plainte pour harcèlement moral, mais l'enquête n'a pas abouti.
Et il y a un autre cas, alors, où cette fois le pompier s'est donné la mort suite à un litige avec sa hiérarchie.
Oui, ça s'est passé en Isère, où le médecin-chef et l'ancien directeur du SDIS ont été mis en examen l'an dernier dans le cadre d'une enquête ouverte après le suicide de Cyril Minard, un ancien délégué sud des pompiers. À partir de 2008, il avait participé à plusieurs journées de grève pour la défense de leurs conditions de travail ou même des services publics en général. Et c'est là que les conflits avec sa hiérarchie ont commencé, comme le rappelle Manuel Coulet, également représentant du syndicat sud.
À l'issue de la période de grève, donc des 2 heures de grève, il demandait à reprendre le travail, ce qui lui a été refusé à plusieurs reprises. C'est-à-dire qu'on lui dit non, tu ne reprends pas le travail. Et donc, de fait, comme il n'avait pas travaillé, son salaire était amputé du nombre d'heures non travaillées.
Oui, donc on imagine qu'il a jugé cette sanction injuste.
Oui, il a même saisi la justice administrative à plusieurs reprises pour faire valoir ses droits.
Et dans ce cas précis, est-ce qu'un lien a été établi entre le mal-être de ce pompier et ses tensions au travail ?
Alors oui, le tribunal administratif de Grenoble a effectivement reconnu le lien avec sa dépression sévère, mais malheureusement à titre posthume, puisqu'il s'est tué avant que le jugement ne soit rendu. C'est pourquoi il y a aujourd'hui encore une instruction pénale pour harcèlement moral et homicide involontaire.
Et au-delà de ces investigations judiciaires toujours en cours, est-ce qu'il y a eu une enquête interne ?
Oui, le suicide de cet agent a beaucoup ému le personnel du département et le CHSCT de l'époque a demandé une enquête indépendante. La direction a finalement mandaté une société privée pour faire cette expertise, mais Manuel Coulet estime que le psychologue de ce cabinet a fait l'objet de pressions pour changer les conclusions de son rapport.
Le travail a été mené par un psychologue, effectivement, qui a rencontré un nombre de personnes assez importantes. Et donc, un premier rapport a été envoyé par mail au directeur départemental, qui envoie un courrier au rédacteur du rapport en lui disant quelque chose qui n'allait pas. C'était 3 charges contre le SDIS, donc ça n'allait pas. On pourra citer, par exemple, un des passages du courrier. La mise en avant d'éléments erronés ou sans fondement, sans analyse contradictoire ou sans lien avec le périmètre de la mission, qui font douter de l'objectivité de la réflexion.
C'était trop à charge pour la direction du SDIS concerné, mais est-ce qu'à la suite de ça, le rapport de ce psychologue a vraiment été modifié ?
Oui, il y a eu 6 versions de ce rapport, avec au final un langage plus technique, même s'il décrit toujours les mêmes faits, mais du coup il est moins facile à lire. Interrogé pour savoir si le cabinet avait cédé aux critiques du directeur du SDIS mis en examen aujourd'hui, voilà ce que nous a répondu sa directrice Gaëlle Lorca.
Un rapport doit être sans jugement de valeur. Donc, on a reprécisé ou on a reformulé, mais en aucun cas, on a voulu amoindrir. Ce qui est fou, c'est que la direction n'est pas contente du rapport et les syndicats ne sont pas contents du rapport. Donc après, je veux bien qu'après coup, on dise blablabla, blablabla, mais s'ils considéraient que ce qui était dedans était faux, ils pouvaient le contester.
Interrogé sur le sujet, ni le SDIS de l'Isère, ni son ancien directeur n'ont souhaité répondre à nos questions en expliquant qu'ils ne commentaient pas une affaire en cours d'instruction.
Merci Anne-Laure Barral pour cette enquête que vous pouvez retrouver en longueur sur notre site et sur l'appli Radio France. Secret d'info, c'est terminé pour aujourd'hui. Cette émission était préparée par Raphaël Canezan et réalisée par Christophe Imbert. À la programmation musicale, il y avait Jean-Baptiste Audibert et à la technique David Diboué-Black. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve samedi prochain.